Alors ce soir, on va célébrer un musicien aussi méconnu qu'influent, un guitariste sans lequel des groupes comme les Red Hot Chili Peppers ou Nirvana n'auraient pas eu la même identité, en tout cas pas le même son, et qui fut tout simplement un visionnaire, comme il y en a très peu. Formule mémorable, « This heaven gives me migraine », ce paradis me flanque la migraine. Une formule qui pouvait résumer l'esprit d'un certain courant propre à une certaine période, ce qu'on a appelé après coup le rock post-punk. C'était il y a quelque temps, il y a plus de 40 ans, où quelques voix isolées et virulentes ricanaient face à une évolution nouvelle de la société de consommation où, dans nos sociétés développées, ce n'était plus les seuls produits industriels qu'on était invités à consommer, mais tout devenait un produit de consommation, du sexe à la culture, en passant par l'amour. Et dans ce courant de l'après-punk se déversait énergie et colère, mais à la différence du punk, ou au-delà du punk, il y avait aussi de l'anxiété. Une anxiété comme blême et une sorte de dégoût qui, à l'inverse du punk, était peut-être plus de l'ordre de l'implosion que de l'explosion. L'année, c'était 1979 et la chanson qu'on vient d'entendre, Natural's Not In It, c'était le groupe Gang of Four qui l'interprétait et le titre de son album resté dans l'histoire, c'était Entertainment, point d'exclamation. Un titre choisi par Antiphrase dans un esprit de dérision. On a appris au début de ce mois la mort brutale à l'âge de 64 ans du guitariste Andy Gill. Andy Gill, le cofondateur et architecte du son du groupe Gang of Four. Le grand public ne le connaissait pas et en France, pour une raison inexplicable. Gang of Four n'a jamais eu l'impact profond d'un groupe comme Joy Division, célébré et encensé par des générations successives. Alors que l'influence de l'album Entertainment a en vérité été plus profonde et plus étendue que celle de Unknown Pleasures de Joy Division. Oui, beaucoup ont essayé sans doute d'imiter Joy Division, mais il y avait quelque chose d'inimitable dans ce groupe qui était lié à l'aura tragique de son chanteur et parolier Ian Curtis, suicidé à 23 ans. Tandis que nombre de groupes, parmi les plus importants de leur temps, je vous les citerai presque tous tout à l'heure, j'espère ne pas en oublier, ont sinon imité, du moins puisé dans le style, le son et l'esprit de Gang of Four. Alors je vous résume les débuts de l'histoire. Au milieu des années 70, à l'université de Leeds, en Angleterre, quatre étudiants suivent l'enseignement, entre autres, d'un jeune spécialiste de l'histoire de l'art en France du milieu du 19e, d'avant l'impressionnisme. Il s'appelle T.J. Clark. Et ce T.J. Clark est alors un membre de l'international situationniste qui n'a plus que quelques années à vivre. Clark ouvre l'esprit et guide les lectures de ces jeunes gens qui se reconnaissent dans sa sensibilité révolutionnaire et sa vision radicale et intransigeante. Et le mouvement punk, qui pousse toute une jeunesse à prendre le pouvoir dans la musique par une sorte de terreur, sans se soucier des règles, fait le reste. Andy Gill, un des étudiants de T.J. Clark, s'empare d'une guitare électrique et il l'attaque à sa façon, selon une méthode improvisée, comme le font quelques-uns dans ces années-là. Il est sans doute le premier à avoir l'intuition que le punk rock doit se régénérer en assimilant à sa façon le funk et les riffs de guitare saccadés du disco. Provocation situationniste, Andy Gill, le chanteur John King, le bassiste Dave Allen et le batteur Hugo Burnham choisissent le nom de Gang of Four. Qu'est-ce que c'est Gang of Four? Eh bien, c'est ce qu'en France, on désigne par la bande des quatre. C'était la formule dénigrante que le pouvoir communiste chinois avait employée à la fin des années 70 pour désigner une clique de putschistes regroupés autour de la redoutable veuve Mao qui souhaitait réinstaurer en Chine un régime de terreur révolutionnaire. Et alors, une combinaison particulière naît ainsi, des paroles de chansons inspirées par la critique situationniste qui tournent en dérision une vie quotidienne aliénée par les ersatz d'une consommation qui s'est substituée à la vraie vie, une appropriation sauvage des rythmes funk pour faire pour la première fois danser les punks, aux yeux de qui d'ailleurs le disco est souvent une espèce de grand Satan destiné à abêtir les masses, et cette attaque de guitare en giclée, en saccade, distordue par des rideaux de feedback assourdissant, qu'assène avec une sorte d'énergie spasmodique Andy Gill, qui arpente avec sa Stratocaster la scène de long en large, sans répit, pendant que le chanteur John King est secoué par une espèce de danse de Saint-Guy. Alors, je vous raconte ça de mémoire, j'y étais au premier concert qu'a donné Gang of Four à Paris en 79, au Bain-Douche, et dans mon souvenir d'ailleurs, il y avait plus de monde qu'à Joy Division, et tout le monde dansait. Bon, voilà, vous savez presque tout. Il me reste quand même à vous citer les paroles de ce classique de Gang of Four que je vous propose d'entendre, « At home, he's a tourist ». Chez lui, il se sent comme un touriste, il se farcit la tête de culture et ça lui donne un ulcère.
on my back. They say our world is built with endeavor, that every man is for himself. Wealth is for the one that wants it. Paradise, if you can earn it. History is the reason I'm washed up.
Démonstration de tout ce que Andy Gill était capable de faire avec une guitare. Paralyzed, c'est le monologue d'un ouvrier, on peut l'imaginer, qui vient d'apprendre qu'il est licencié, que désormais, eh bien, c'est le monde du chacun pour soi. Le premier titre du deuxième album de Gang of Four, Solid Gold, sorti début 1981, sans doute trop longtemps après le premier. Le succès, surtout critique, de l'album Entertainment avait été fulgurant, et un an et demi, ça allait vite en ce temps-là, le contexte avait complètement changé. Le ska était passé par là, il y avait le retour du rockabilly avec les Stray Cats, la mode pirate, la pop néo-romantique, l'électro-pop naissante, la mode naissante des vidéoclips, enfin tout ça. Alors l'austérité abrasive, comme en noir et blanc, de Gang of Four, peut-être n'avait rien perdu de son acuité, mais les esprits de plus en plus étaient ailleurs, peu à peu, l'envie de se divertir, de s'amuser, de s'évader, d'être flamboyant pour une nuit, de se déguiser. Le temps d'une fête avait tout recouvert comme un tsunami. Alors Gang of Four a bien tenté d'évoluer, de s'adapter à ces temps nouveaux en donnant à son punk-funk un son plus américain, non sans un certain succès d'ailleurs au début aux États-Unis, mais il faut dire ce qui est, le groupe a perdu de son acuité et quelque chose s'est vite perdu en route. Bref, au milieu des années 80, Gang of Four a dû renoncer. Et pour autant, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à prendre la mesure, surtout dans les milieux du rock indépendant aux États-Unis, de l'influence de ce groupe. Un exemple non des moindres, est celui d'un groupe issu de la ville de Athens, en Géorgie, R.E.M. Alors, d'un côté, bien sûr, le plus évident, R.E.M. adaptait le folk-rock mélancolique et carillonnant des Byrds à l'ambiance un peu désolée de la musique alternative des années 80, mais de l'autre, le groupe prenait son inspiration dans le son tranchant et froid comme le mercure de groupes comme Wire et, justement, Gang of Four. Et d'ailleurs, quand il a appris le décès de Andy Gill, Michael Stipe, le chanteur de R.E.M., a déclaré « Gang of Four savait swinguer, je leur ai tout volé ». C'est un peu exagéré. Plus précis peut-être, le bassiste Mike Mills, du même groupe, a écrit ceci sur son compte Twitter. « Andy Gill et le reste de Gang of Four ont modifié la façon dont on a décidé d'aborder le son à nos concerts. Ils ont mis la barre très haut et on a essayé de se hisser à leur niveau. Il y avait tellement de puissance métallique dans leur son. » Une preuve, eh bien, écoutez la guitare tout en hachures et brisures de Peter Buck, le guitariste de R.E.M. dans ce titre de 1985, extrait du troisième album du groupe, Fables of the Reconstruction. La chanson s'appelle Can't Get There From Here et on célèbre le talent visionnaire de Andy Gill de Gang of Four qui vient de nous quitter sur France Inter dans Very Good Trip ce soir. Bad swallow, oh.
Trip sur France Inter, Mishka Assayas.
Des réminiscences de hard rock psychédélique, oui, mais aussi une ligne de basse funky et des spasmes, des déchirures de guitare électrique au son grésillant et saturé, hérité en droite ligne des deux premiers albums de Gang of Four. C'était Love Buzz, une chanson extraite de Bleach, le premier album de Nirvana paru en 1989. Kurt Cobain n'avait pas hésité à déclarer, je sais pas exactement quand il l'a fait, que, je cite, Nirvana était un pur pompage de Gang of Four. Bon, une formule un peu excessive, il en avait quelques-unes comme ça, mais ce qui est vrai, c'est que quand à 20 ans, en 1987, Cobain s'est installé dans la ville de Olympia, au sud de Seattle, ce fan de Led Zeppelin et de Black Sabbath a découvert tout un monde musical dont il n'avait pas idée. Il y avait là, à Olympia, une petite communauté de musiciens férus de rock alternatif emmenés par Calvin Johnson, qui était l'animateur du groupe Beat Happening. Et c'est là que Cobain découvre des groupes très très peu connus comme les Raincoats ou les Young Marble Giants qui le fascinent. Et bien sûr, Gang of Four qui devient une sorte de totem de cette communauté à Olympia, d'où va bientôt essaimer le mouvement dit des Riot Girls, variante féministe et politisée à l'extrême gauche du punk rock. L'influence de Gang of Four est également manifeste aussi sur le titre des Pixies qu'on a entendu juste avant, Tame, extrait de l'album Doolittle qui est sorti la même année, 1989, que le Bleach de Nirvana. Mais ce n'est pas que dans cette famille particulière du rock alternatif que l'influence de Gang of Four s'est fait sentir. Et c'est un fait que j'ignorais, je l'avoue, mais la réputation de Gang of Four était telle auprès de nombreux jeunes musiciens aux États-Unis que les Californiens des Red Hot Chili Peppers, en particulier le bassiste Flea, ont tenu à ce que ce soit l'anglais Andy Gill qui réalise leur tout premier album sorti en 1984. Bon, l'expérience s'est pas très bien passée, c'est vrai, mais c'est dire tout ce que représentait alors la percée du son et du style de Gang of Four auprès de musiciens appartenant à diverses communautés. D'ailleurs, Flea a posté ce commentaire enflammé après avoir appris la mort de Andy Gill. « Un de mes guitaristes préférés de tous les temps nous a quittés. Écoutez l'album Entertainment tout de suite. C'est un disque qui a changé ma vie à tout jamais et a eu une immense influence sur mon épanouissement en tant que musicien et m'a montré ce que pouvait être un groupe de rock. » Cette chanson des Red Hot Chili Peppers que je vous propose d'écouter, Freaky Styley, qui a donné son titre à leur deuxième album, n'a pas été réalisée par Andy Gill, mais par le grand inventeur du funk psychédélique George Clinton, autre héros des Red Hot Chili Peppers, qui allait inventer une combinaison inédite de funk, metal et rap avec le succès qu'on sait, mais il révèle très bien l'influence de Gang of Four sur le son de leur début. We'll be right back.
curriculum. I put my fist in them. Eurocentric, every last one of them. See right through the red, white, and blue disguise. Lecture up, watch the structure of life. Don't in our minds and attempting to hold us back. We've got to take it back. Holes in the spirit causing tears and fears. One-sided stories for years and years and years. I'm inferior, who's inferior? Yeah, you need to check the interior of the system. Who cares about only one culture and that? So we gotta take the power back. To break it down. Class, but the lesson plan he can't recall. The student's eyes don't perceive the lies bouncing off every fucking wall. Closure is well kept. I guess he fears playing the fool. The place that students sit and listen to that bullshit that he'd learned in school. Europe ain't my rope to swing on. Can't learn a thing from it. Yeah, we hang from it. Gotta get it. Quick rubberman. Rock the motherfucking rubberman. Expose and close the doors on those who try to strangle and mangle the truth. The circle of hatred continues unless we react. We gotta take the power back.
Take the power back, c'était Rage Against the Machine, bien sûr, enfin bien sûr, peut-être pas pour tout le monde qui écoute France Inter à cette heure-là, en 1992, apparu par un hasard historique dans le sillage de la première guerre du Golfe, hein, ce groupe assemblé à Los Angeles allait avoir un immense impact sur les années 90 en mêlant les énergies combinées du metal, du funk, du punk rock et du rap. Funk, punk, engagement politique se voulant radical et révolutionnaire, on voit clairement la filiation avec Gang of Four. D'ailleurs, un de ceux qui ont salué avec le plus d'émotion la mémoire de Andy Gill, c'est Tom Morello, le guitariste, et quel guitariste, vous l'avez entendu, de Rage Against the Machine. Rage Against the Machine, d'ailleurs, dont on vient d'apprendre, c'est une surprise, le retour pour une nouvelle tournée mondiale qui passera par le festival Rock en Seine, qui se tiendra, comme tous les ans, à la fin de l'été prochain. Donc, Tom Morello a salué en Andy Gill, je cite, une de ses influences primordiales, son côté anti-héros de la guitare déconstruite, c'est bien trouvé, c'est un connaisseur qui parle, son esthétique incendiaire et son esprit caustique. Mais alors, si on veut prendre toute la mesure de l'influence de Gang of Four, on n'en aurait jamais fini. Dans la ville de Olympia, dans l'état donc de Washington, au nord de la côte ouest des États-Unis, dont je vous parlais tout à l'heure à propos de Kurt Cobain et du mouvement des Riot Girls, eh bien le son et l'approche de Gang of Four ont servi, pour ainsi dire, de table de la loi au trio punk féminin et féministe d'ailleurs, Slater Kinney, créé au milieu des années 90 par deux femmes, Carrie Brownstein et Corinne Tucker. Un trio qui, par ricochet, a marqué en profondeur Nathan Howdeshell, le guitariste du trio Gossip, celui qui a révélé la chanteuse Beth Ditto, dont on entendra tout à l'heure Jealous Girls. Et quand on écoute ce titre mémorable signé Slater Kinney en 1997, Dig Me Out, eh bien, la présence de Gang of Four est flagrante.
Yeah.
Very Good Trip sur France Inter.
Un riff de guitare comme exécuté à la mitraillette, encore une trace inattendue de l'influence du groupe anglais Gang of Four, dont on célèbre ce soir le talent visionnaire, celui du guitariste Andy Gill, dont on a tristement appris la disparition au début du mois à l'âge de 64 ans. Le titre qu'on vient d'entendre s'appelait Hush, il remonte à l'année 1992, les tout débuts du groupe Tool, un groupe de métal qui s'est vite aventuré au-delà du genre. Alors je vous parlais tout à l'heure de Rage Against the Machine, eh bien il se trouve que Tom Morello, son guitariste, a un lien avec Tool, puisqu'il a fondé son tout premier groupe en compagnie de Adam Jones, le bassiste de Tool. Adam Jones qui a témoigné dans le magazine Billboard sur l'impact qu'a eu sur lui le jeu de guitare de Andy Gill de Gang of Four. Je le cite « Dans les années 70, j'étais juste un gamin qui essayait de secouer l'influence du rock classique. Le jeu cru et passionné de Gill a eu beaucoup d'effet sur moi. On pouvait sentir sa colère. » Alors voilà, on pourrait continuer longtemps comme ça, parler de James Murphy et de LCD Sound System, de Franz Ferdinand, autant de musiciens chez qui les graines, semées par Gang of Four et Andy Gill ont continué à germer dans les années 2000. Andy Gill, en tout cas, est quelqu'un qui, jusqu'à la fin de sa vie, n'a jamais perdu la foi et l'espérance. Lui qui était le seul membre d'origine à faire survivre Gang of Four, avec lequel il se produisait encore à l'automne dernier, continuait de son lit d'hôpital à écouter les mix d'un nouvel album prévu et à planifier une ultime tournée. Je cite un extrait du communiqué publié par ses camarades. On se souviendra toujours de lui pour sa gentillesse et sa générosité, sa redoutable intelligence, ses blagues pourries, ses histoires à dormir debout et les innombrables tasses de Darjeeling qu'il pouvait boire. En fait, Andy était à sa façon un génie.